Marcher vers le bien-être avec Denis Chagnon.
Chers amis, bonjour, je m'appelle Denis Chagnon et je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues à Marcher vers le bien-être. J'espère que vous vous portez bien. Je vous invite cette semaine à découvrir un aspect peu connu de l'univers pédestre, la thérapie par la marche. La marche thérapeutique est une pratique relativement nouvelle qui associe mouvement, nature et accompagnement psychologique en route vers un bien-être retrouvé. La caractéristique fondamentale de cette modalité d'intervention est qu'elle remplace le cadre traditionnel du bureau par une marche à l'extérieur, en compagnie d'une ou d'un professionnel. Pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir au micro de Marcher vers le bien-être Tamara Ackman, membre de l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. Tamara propose un accompagnement psychologique à court terme, axé sur les solutions ainsi que les forces de chacun et de chacune, tout en profitant des bienfaits d'une marche en pleine nature. Toujours dans le cadre de la quête d'un plus grand bien-être, Michel Cousinat-Baudet, dans sa chronique « Le corps en marche », répond de façon définitive à la question souvent posée « Peut-on vraiment perdre du poids en marchant ?» Un indice, oui, mais... Alors à tout de suite. Alors bonjour Tamara et merci beaucoup d'être des nôtres pour nous parler d'une formule de thérapie tout à fait exceptionnelle, innovante, c'est-à-dire la thérapie par la marche.
Bonjour Denis, c'est vraiment un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui.
Alors, on commence par le commencement. C'est quoi cette thérapie par la marche? Ça veut dire quoi?
Ben, si on pense un peu à la thérapie traditionnelle, dans les quatre murs, dans un bureau, un client face à un intervenant ou un thérapeute, c'est prendre ce même concept, ce concept de soutenir, d'aider, de thérapie, et le sortir des quatre murs. Alors, c'est de l'amener dehors, en fait, et d'ajouter l'élément du mouvement. Et d'être en nature, ces facteurs guérisseurs à l'intervention. Alors, c'est la même chose, c'est une consultation clinique, c'est une thérapie, mais on amène cet aspect de mouvement et d'être en nature qui a beaucoup, beaucoup de bienfaits pour la personne aussi.
Mm-hmm. Alors, vous parlez de nature, est-ce qu'on peut le faire aussi en ville?
Oui. Il y a plein d'intervenants qui vont faire ça dans les rues, dans un quartier. Nous, on est ici à Montréal présentement. On peut faire ça dans les parcs, dans les voies vertes, etc. Des endroits où il y a peut-être un peu moins de monde, où on peut vraiment être plus concentré sur l'intervention.
Mais c'est préférable en nature, si j'ai bien compris, parce que j'ai fait l'expérience avec vous. Là, en forêt, c'est beaucoup mieux. Dans un grand parc, comme le parc du Mont-Royal, par exemple.
Exact. Ça nous permet aussi, en intervention, de regarder vers le ciel, de regarder les arbres, le gazon, le changement des saisons. Et ça peut vraiment venir accompagner la démarche thérapeutique aussi. Alors, pas seulement les émotions intérieures, mais d'avoir le regard qui voit les oiseaux, les nuages, etc., est vraiment aidant aussi dans le processus thérapeutique.
Et bien sentir, bien respirer,
oui,
j'imagine.
Exact,
aussi, hein? Ça doit aider.
Exact. Parce que quand on marche aussi, on respire, on est en mouvement. Et puis, je n'ai pas les études devant moi, mais il y a plein d'études aussi qui montrent l'effet et l'impact du mouvement physique sur notre santé mentale, sur notre sentiment de bien-être aussi. Et la marche comme telle, comme vous le savez, ça fait du bien. Ça fait du bien à la base.
Mais oui, on en a parlé beaucoup, évidemment, à l'émission depuis 4 ans maintenant, une cinquième année. Alors, il y a des bienfaits physiques au niveau mental, émotif et tout. Maintenant, il y a quand même des similitudes avec la formule conventionnelle lorsqu'on a le patient devant l'intervenant.
Oui. c'est vraiment, c'est juste le cadre qui change. Alors, dans un bureau, quand on consulte un thérapeute, c'est la même chose. On se dévoile, on explique un peu qu'est-ce qui se passe avec nous, peut-être nos préoccupations ou un peu la détresse qu'on vit, et on est face à quelqu'un qui est formé pour soutenir, soit un travailleur social, un thérapeute, un psychothérapeute, et cette relation d'aide reste pareille dans un contexte dehors aussi. Alors on est dehors, mais ça reste quand même la même chose, parce que la relation d'aide est toujours au centre du dynamique. Mais ce qu'on fait avec la marche thérapeutique, c'est on vient ajouter des éléments qui peuvent soutenir le bien-être aussi.
Mmh. Mmh. Alors, la formule est également semblable en ce sens qu'on offre une présence, il y a une écoute.
Exact.
Il y a un espace, comme on disait, pour déposer son lourd fardeau.
Exact.
Là. Ouf, on
exact.
Se débarrasse de tout ça, ou on le met sur la table, pour ainsi dire. Maintenant, quels sont les bienfaits de cette thérapie qu'on appelle thérapie par la marche, ou walk and talk, c'est intéressant.
Ben, les études démontrent que ça peut vraiment aider avec tout ce qui est anxiété et dépression. Ça apaise aussi le système nerveux. C'est vraiment grâce à l'activité physique de la marche. Moi, ce que j'ai vu aussi dans ma pratique à moi, c'est vraiment aussi en termes du lien thérapeutique. Marcher à côté de quelqu'un, il n'y a pas quelqu'un qui gère, il n'y a pas quelqu'un qui est le boss.
C'est vraiment
un partage. Alors, souvent, dans le dynamique entre un client ou un usager et un thérapeute, il y a quand même une dynamique de pouvoir qui peut s'installer, le thérapeute comme expert. Et puis, dans la marche thérapeutique, ce qu'on voit, c'est on est à côté et on construit ensemble la session. Et ça redonne le pouvoir à l'usager aussi, au client. Souvent, quand la personne peut être en détresse ou en tristesse ou vivant de l'anxiété, on peut se sentir sans pouvoir aussi, sans pouvoir d'agir et sans pouvoir de faire des changements dans nos vies. Mais de marcher côte à côte avec quelqu'un qui nous soutient, ça nous redonne un peu ce pouvoir d'agir dans nos propres vies aussi.
Et ça a été démontré, comme vous le dites, par des études quand même scientifiques.
Oui, exact. Oui. On voit que c'est très bien avec, par exemple, des jeunes adultes, que c'est peut-être difficile pour eux d'être face à face avec un intervenant et puis se dévoiler. Mais d'être à côté de quelqu'un et marcher, ne pas être obligé de regarder dans les yeux, ça permet de parler des fois et sortir des choses qui sont peut-être un peu plus difficiles à partager.
Vous parlez des jeunes, une génération qui est habituée aux écrans, justement, là, que ce soit le téléphone, le iPad ou quoi que ce soit.
Exact.
C'est un facteur que vous soulignez qui est intéressant. Peut-être ce manque d'habitude de parler face à face, justement.
Oui. Et puis, on le voit aussi dans les universités. Un des problématiques qui monte, je dirais, en flèche pour nos jeunes, c'est la solitude et l'isolement. Et ça, c'est vraiment, on croit c'est lié à le fait de cette génération qui, comme vous le dites, a grandi avec leur iPad et leur téléphone, etc., et qui ont moins cette capacité ou moins cette habitude d'avoir une conversation ou juste jaser même.
Oui. Alors, c'est bien beau tout ça. J'ai profité de votre générosité. J'en ai fait l'expérience il y a une semaine maintenant. Alors, si vous nous donniez vraiment un exemple du déroulement d'une heure ou deux là, lors de cette session de thérapie par la marche.
Alors, normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on se donne rendez-vous dans un espace vert ici en ville, à Montréal. Et puis, avant, j'évalue un peu avec la personne leurs besoins, oui. Leur mobilité aussi.
Ah oui, oui.
Parce que il y a des espaces où on peut marcher où c'est plus plat. Il y a des espaces où on peut marcher où c'est plus peut-être exigeant. Et normalement, on se donne rendez-vous et puis on commence presque tout de suite à marcher ensemble. Et c'est toujours le client qui guide en termes de vitesse. Alors, ce n'est pas une course, ce n'est pas un concours, on ne doit pas aller vite, on n'a nulle part à y aller, on est juste là pour marcher ensemble. Mmh. Alors, on commence tranquillement. Et la façon que moi je travaille, c'est beaucoup axé sur les solutions et sur les forces de la personne. Alors, on commence avec, oh bon, qu'est-ce qu'on travaille aujourd'hui? On a 7 heures ensemble et puis 7 heures appartient à la personne et on explore, OK, dans cette heure-là, qu'est-ce qu'on peut travailler ensemble? Comment est-ce qu'on va savoir, par exemple, dans une heure que les choses vont mieux? Alors, des fois, on peut dire, je me sens bloquée ou je sens un stress dans mon corps. OK, comment est-ce qu'on va savoir qu'à la fin, les choses ont bougé? Peut-être que le stress dans mon corps serait un peu moindre. OK, comment est-ce qu'on va l'atteindre? Alors, on commence tranquillement. Moi, je guide en termes du parcours. Alors, la personne a juste besoin de marcher. Et puis, on marche tranquillement. Des fois, on va s'arrêter. On s'assoit sur des bancs pour prendre un moment aussi. Et tranquillement, on revient à notre lieu de départ. Et on prend quelques moments ensemble pour juste faire un petit retour sur la session. Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on a compris? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Mmh. Et puis, on termine comme ça.
J'ai noté que vous aviez quelques questions, mais toutes simples. Mm-hmm. Toute pointue.
Oui.
Vous ne parlez pas beaucoup.
Non.
Vous ne faites que poser les questions et probablement la question ou les bonnes questions mm-hmm. pour susciter mm-hmm. l'ouverture
oui.
du participant, du client.
Oui. C'est vraiment dans la relation d'aide, c'est beaucoup l'espace qu'on crée ensemble avec la personne. Alors, c'est, je crois qu'on... Comme on l'a nommé au départ, c'est de donner un espace pour la personne. Je crois que vous avez nommé d'avoir un fardeau et avoir un espace pour déposer.
Déposer le fardeau, le lourd fardeau qu'on
exact.
Dit inutile parfois.
Exact, exact. Et beaucoup dans la relation thérapeutique est de créer cet espace et de permettre à la personne de dire, de penser et réfléchir à des choses que peut-être la personne n'a pas réfléchi ou pensé mmh,
oui.
auparavant.
Mmh.
C'est vraiment beaucoup dans la relation et de voir autrement ou de voir « Ah, j'avais pas pensé à ça ». Et puis juste ça, de changer de perspective, même si c'est 5 centimètres, mmh. ça peut être... ça a beaucoup de pouvoir.
Oui.
Ça a beaucoup de pouvoir.
J'ai ouais. noté que vous laissiez beaucoup de liberté à mm-hmm. la personne mm-hmm. de ne pas parler.
Mm-hmm.
Parce que c'est parfois dans ces moments-là qu'on réfléchit mm-hmm. plus facilement.
Mm-hmm.
Et j'ai trouvé que penser dans la nature, ça doit être plus facile,
mm-hmm.
dans un certain sens, que de parler ou de penser plutôt dans un bureau.
Mm-hmm. Mm-hmm. Moi, je crois que la nature, c'est tellement aidant pour nous en termes de nos réflexions, nos sentiments. Si on pense qu'on est dehors et, par exemple, je vous pose une question, et là, avec votre regard, vous pouvez voir les bouts des arbres, vous pouvez voir au loin peut-être un petit étang et les canards mm-hmm. qui sont là. Ça permet aussi à l'esprit d'avoir plus de place à explorer, que quand on est dans nos 4 murs, même les yeux, on a moins de moins de possibilités d'exploration qu'on est dehors. Les horizons sont plus vastes.
Mm-hmm. Je me pose la question aussi, est-ce que c'est plus facile d'éluder la question, de ne pas répondre à la question parce qu'on regarde autour, on est distrait par justement la nature ou quoi que ce soit? Ou si au contraire, la nature favorise cette réflexion? Bonne question.
Bonne question. Oui, c'est une bonne question. Et dans une relation thérapeutique, c'est la personne au centre qui est toujours l'expert et qui est toujours le décideur. Peut-être il y a des questions qu'on ne veut pas répondre ou que ça...
C'est là où ça bloque.
Ça bloque et on dit, non, moi, ça, je ne veux pas y répondre.
J'évite ça, là.
Non. Et des fois, je vois ça dans des consultations et je vais dire, je remarque que vous ne répondez pas à cette question ou qu'on va dans une autre direction sans jugement et sans...
C'est une observation.
C'est une observation, oui. Exact. Oui. Et puis, des fois aussi pour la personne, d'observer que, ah oui, ça, j'ai de la difficulté avec ça. Ça me heurte de le regarder. Même ça, on peut dire, OK, et on le met à côté pour une autre fois ou on y retourne quand ça fait du bien, mais si on veut pas, on le laisse aussi. Il y a pas d'obligation non plus de dévoilement aussi dans le processus.
Est-ce que le patient ou le client se sent justement plus libre de ne pas répondre, justement parce qu'on marche, parce qu'il y a d'autres stimuli pour capter notre attention?
Ouais. Des fois, je trouve les gens ils partent dans beaucoup de directions.
Mais oui.
Le regard va tomber sur quelque chose, ils vont dans une autre direction et c'est correct, c'est normal, nos pensées, je crois que c'est, en bouddhisme, on parle du cerveau singe qui saute d'une heure à un autre,
oui, c'est ça, oui.
N'est-ce pas? Et puis on est toujours un peu, moi je reste toujours très consciente de tout le processus. Alors, même si la personne est un peu ici, je dis, ah, OK, c'est intéressant. Et puis, j'essaie de faire des ponts. Alors, ça qu'on touche maintenant, est-ce qu'il y a un lien avec ce qu'on touchait il y a quelques minutes? Est-ce qu'il n'y a pas de lien? Pourquoi? Alors, c'est toujours une exploration, c'est toujours de poser des questions et essayer de comprendre avec la personne.
Alors, vous allez vraiment au rythme physique, c'est-à-dire de la marche de la personne et au rythme émotif de la personne.
Exact.
Oui.
Exact.
C'est un art quand même, ça. Il faut être très alerte, très attentif.
Oui, c'est oui. Ça? Oui. Ça demande beaucoup d'attention.
Oui. J'ai noté aussi que vous étiez très attentif justement au rythme de la personne. Vous ralentissez ou vous allez un tout petit peu plus vite pour être au diapason de la personne.
Oui, exact. Parce que ça revient un peu à ce que je disais auparavant, de remettre un peu ce pouvoir d'agir, ce pouvoir de contrôle à la personne. C'est aussi, moi, dans ma pratique, on va marcher dans tous les temps. Alors, s'il pleut,
ben oui, justement,
s'il neige, s'il vente, on va le faire aussi parce que dans la vie aussi, il n'y a pas toujours juste des journées ensoleillées et qu'on est bien. Il y a des journées avec du vent, il y a des journées avec des tempêtes aussi. Et quand j'ai fait des démarches thérapeutiques avec des personnes sous la grosse pluie, sous la grosse neige, ou qui fait moins 25, et puis, à la fin, on se regarde et on dit, waouh, on l'a fait, on a réussi, et il y a cet aspect de succès qui s'ajoute à ce qu'on fait. En anglais, on dit « we can do hard things
».
Ce concept que nous pouvons faire des choses difficiles et de marcher en tout temps, c'est aussi de montrer que oui, on peut faire des choses difficiles. On est capable.
C'est intéressant, vous parler de complicité, dans le fond, là, dans le cheminement.
Oui.
Vous marchez ensemble.
Oui, exact. Oui, il y a beaucoup de complicité. Oui.
C'est fascinant, cette thérapie par la marche. Maintenant, ce n'est pas nécessairement une solution miracle.
Non, comme toute forme de thérapie ou de soutien, il n'y a pas de solution miracle. Je crois qu'il y a tellement d'options qui sont ouvertes pour les gens maintenant. Et c'est superbe qu'on a tellement d'options.
De possibilités, là, oui.
Ouais, de possibilités pour les personnes. Il y a l'art-thérapie, il y a la thérapie par le mouvement, il y a toutes sortes de thérapies, il y a la psychothérapie classique, et il n'y en a pas un qui est meilleur qu'un autre. C'est vraiment pour chaque personne de trouver qu'est-ce qui fait écho avec la personne même, qu'est-ce qui leur fait du bien. Et des fois, une personne peut essayer quelques modalités, dire « Oh, j'ai essayé ça, ben ça marche pas bien, j'ai essayé quelque chose d'autre. Ah, ça me convient, ça fait du bien pour moi. » Alors, c'est juste cette thérapie par la marche, c'est vraiment une autre option. Ça fait écho pour certaines personnes. Certaines personnes me disent « Ah oui, quand j'ai vu ça, c'était pour moi, je savais. » Et d'autres, ils disent « Ouf, non, d'être dehors comme ça, sous toutes les températures, ça ne m'intéresse pas. » Et c'est entièrement correct, il y a une solution pour tout le monde. Mm-hmm.
Mm-hmm. Et c'est bon de l'essayer au moins une fois.
Écoutez, moi je trouve ça fantastique, je trouve ça fait vraiment du bien, mais il faut que ça fait écho pour la personne aussi qui dit « Ah, waouh, j'ai envie d'essayer ça ».
Vous me disiez également que vous le faites normalement avec un patient ou un client ou quoi que ce soit. Mm-hmm. Pendant 4 ou 5 ou 6 mm-hmm. sessions, ce oui. n'est pas nécessairement à long terme.
Non, moi, je travaille vraiment d'un modèle court terme. C'est vraiment un modèle qui est axé vraiment fortement sur les forces de la personne et sur les solutions. Alors, on va se rencontrer à quelques reprises et on va voir ensemble, OK, sur quoi on travaille? Sur quoi on a besoin d'un petit boost? Est-ce que c'est lié à l'anxiété, la dépression, des changements de vie, peut-être la colère, des problèmes au travail, peu importe. Et on va vraiment aider la personne à voir ses forces, à voir ses capacités et de se faire des objectifs assez actionnables que la personne peut intégrer dans leur vie. Et là, je vais dire à la personne, ben, allez-y, essayez et revenez aux besoins. Alors, ça m'arrive de ne pas entendre de nouvelles d'un usager pour 6-7 mois. Puis la personne va me recontacter en me disant, bon, ça allait très bien. Là, j'ai juste besoin d'une petite marche d'une heure. On va regarder quelques pistes, quelques solutions et ça va me faire du bien. Je dis, OK, et on fait ça ensemble. Et la personne repart dans leur vie parce que l'intervenant, la psychothérapeute, la travailleuse sociale, elle est là pour un moment dans la vie de la personne, mais la personne, elle vit leur vie. Alors, c'est important que la personne prend son pouvoir, comme je le dis, de bien vivre. Ouais.
Tamara, c'est formidable. Nous allons prendre une courte pause musicale et nous allons parler de la réaction, justement, des clients, des participants. Mmh. Nous sommes en compagnie de Tamara. Nous parlons de cette innovation, la thérapie par la marche. Alors, Tamara, nous avons parlé du déroulement, l'essence même de cette thérapie. Parlez-nous maintenant de la réaction des gens qui y participent.
Si la réaction est très positive, ça fait environ 2 ans que je fais ce pratique. Et les gens, à la fin d'une session, ils me disent « ça leur fait du bien ». Il y a un aspect de juste le fait de bouger, de marcher, les gens se sentent moins figés, plus libres en eux-mêmes. Il y a un aspect où les gens vont dire, oh ben, peut-être la semaine prochaine, je vais aller prendre une marche et ça va me faire du bien. Alors, même hors une session de la thérapie par la marche, ils vont intégrer la marche dans leur vie un peu plus quotidien. C'est très, très positif parce que, comme je disais, il y a tous les éléments. Il y a la session thérapeutique, l'écoute active, le reflet, les questionnements, l'espace. Il y a le mouvement qu'on sait fait du bien pour nous de marcher. Et il y a, comme vous avez mentionné, de bien respirer, de prendre l'oxygène. Ça fait énormément de bien. Alors, très franchement, la plupart du temps, quand les gens quittent une rencontre, ils ont un beau sourire pour le reste de leur journée ou leur soirée.
Jusqu'à la prochaine fois.
Oui.
Vous me disiez ce que j'ai trouvé très intéressant. Une des réactions de certaines personnes, c'est de se sentir très près de vous-même, c'est-à-dire marcher côte à côte avec quelqu'un. Mm-hmm. Et puis, c'est comme s'il se disait, je suis là avec toi sans te devancer, sans te tirer. Ça, c'est vous qui parlez. Là. Mm-hmm. Donc, vous les accompagnez vraiment. Vous allez à leur rythme. Oui. Et ça, ça leur plaît, j'imagine. Il y a moins de pression, hein, c'est ça?
Oui. Et c'est, on pourrait même dire, c'est un peu plus informel aussi.
Oui, oui, oui.
Pour certains, c'est presque comme prendre une marche avec une amie. Ça reste un cadre thérapeutique,
professionnel
mais un peu plus informel aussi. Et ça fait du bien pour des gens aussi. Comme on disait, c'est pas pour tout le monde. Certains ont besoin peut-être d'un cadre plus structuré. Ils ont besoin des quatre murs, etc. Et une autre sorte de soutien. Mais pour les gens que ça résonne, cet aspect d'être côte à côte, de façon...
Et libre en même temps.
Libre,
c'est
oui.
C'est ça.
Mm-hmm.
Oui, oui.
Ça fait du bien.
Oui, oui. Et ça fait du bien aussi de penser que ce n'est pas une obligation.
Non.
Je n'ai pas à revenir à toutes les deux semaines, non. Trois semaines ou quoi que ce soit. Encore une fois, il y a une place pour ça, comme vous le dites bien.
Oui.
Mais ce que j'ai trouvé intéressant dans notre session, que vous avez eu la gentillesse de m'offrir pour bien expérimenter la thérapie, on se sent très dégagé. Ça fait du bien.
Ouais.
On pense à autre chose. Et puis, peut-être dans deux semaines ou trois semaines, je rappelle, et puis on reprend une marche, surtout au besoin.
Ouais.
C'est ça?
Exact. Et c'est aussi de remettre un peu ce pouvoir dans les mains du client, de l'usager, dans cette dynamique dont je parlais entre le thérapeute et l'usager qui est souvent inégale. Mm-hmm. C'est peut-être le thérapeute qui décide à quelle fréquence on se voit, etc., etc. Là, c'est beaucoup plus... Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on se revoit dans deux semaines? Ou vous me contactez quand ça fait du sens? Ou on laisse comme ça? Alors, c'est beaucoup de renforcer la capacité de la personne de prendre ses propres bonnes décisions.
Mm-hmm. Vous disiez tout à l'heure que ce n'est pas nécessairement pour tout le monde, mais à qui s'adresse justement cette thérapie?
Différentes types de personnes et je dirais différents types de problématiques aussi. On peut penser à des personnes neurodivergentes aussi que peut-être de bouger, parler, ça fait du bien d'être assis, ça peut être un défi. Alors c'est une population à qui ça peut convenir.
Hyperactive, là.
Oui, oui, ou même... Juste
j'ai envie de bouger. Là.
Envie de bouger. Et je dirais aussi, les gens, comme tous les deux, on le bouge dans nos corps, avec extra d'énergie. Des fois, on a comme trop d'énergie dans nos corps et ça a besoin de sortir. Et marcher, parler, ça peut faire du bien aussi. C'est très bon pour des personnes vivant une dépression. Des fois, quand on est avec des symptômes dépressifs, c'est difficile de se motiver, c'est difficile de sortir, c'est difficile d'être dans l'action et dans l'agir. Alors, ça peut vraiment faire du bien de dire, OK, on marche ensemble. Non seulement on a cette session qui fait du bien pour le côté de l'esprit de la personne, mais on bouge aussi. Et ça active d'autres neurones, etc., mm-hmm. qui font du bien pour la personne. C'est aussi, je dirais, j'ai vu des études qui disent que c'est bien pour les hommes aussi. Les hommes sont souvent les personnes qui vont consulter le moins pour tout ce qui est leur vie intérieure et puis des symptômes qu'ils auront de difficultés santé mentale. Et d'être dans un bureau fermé face à un thérapeute, etc., ça peut être plus menaçant pour des hommes. Alors souvent, c'est une population que ça peut être très aidant de faire ça.
Il y a aussi pour des situations ponctuelles, c'est-à-dire mm-hmm. que s'il y a une épreuve particulière, mm-hmm. j'imagine ça peut être un décès, perte exact. D'emploi, une exact. Séparation. Mm-hmm. Ça doit être bon dans des cas comme ceux-là.
Oui, oui, c'est vraiment aussi dans tout ce qui est changement de vie.
Changement de vie.
Ouais. Comme vous le nommez, un décès, un changement au travail, une rupture de couple, un enfant qui quitte la maison. On vit tout le temps des changements dans nos vies, mais de faire une marche thérapeutique, c'est aussi d'être en mouvement et de ne plus être figé, et de ne plus être figé et bloqué par ce qui nous arrive dans la vie.
Mmh. On en parlait tout à l'heure, il y a des gens aussi qui ont une certaine gêne dans les échanges face à face, les jeunes, mais il y a des adultes aussi, là, que une relation ou une conversation face à face, on voit toujours ou souvent des regards fuyants, on tourne la tête vers la droite, vers la gauche, mais on ne regarde jamais dans les yeux. Oui. Pour ces gens-là, ça peut être bien aussi.
Oui, oui, parce que ça peut être assez menaçant. Il y a même certaines cultures que c'est mal vu de regarder directement dans les yeux. Mais aussi, ça peut réveiller plein de choses pour des personnes et d'avoir un environnement où on n'est pas obligé à regarder dans les yeux. C'est vraiment, ça permet l'esprit à s'ouvrir et aussi de commencer à parler, de commencer à dire...
Tout simplement,
oui. Oui. Dire les vraies choses aussi.
Dire les vraies choses.
Oui.
Parce que les hommes, parfois, c'est un peu plus difficile pour nous.
Des fois, il y a des petits défis qui sont là, c'est sûr.
Oui, oui, oui. Et puis, il y a aussi, j'imagine, pour les personnes qui aiment la nature, c'est idéal pour elles.
Hein? Oui, je dirais la plupart des gens qui sont venus jusqu'à maintenant me consulter, c'est des gens que la marche, ça les fait du bien. Ils savent déjà que la marche les font du bien.
C'est intéressant ce que vous dites là.
Ils savent et puis ils voient cette service et ils disent « Ah, ça fait du bien pour moi.
» Parce qu'on le sait, on l'a vécu là, pendant des années peut-être, les bienfaits de la marche au niveau physique, mental, émotif, spirituel.
Exact.
Et on se dit bien, tiens, peut-être que oui, effectivement, une thérapie par la marche, c'est plus doux, c'est accessible, ça m'est familier.
Exact.
C'est
exact.
Ça? Oui. Oui. Il y a peut-être quand même des limites là, ou des contraintes à une thérapie comme celle-là. On pense à des conditions physique, des capacités physiques particulières?
Oui, alors si on y pense, c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec la marche, avec la randonnée, une promenade. Il y a des contraintes physiques. Alors ça, c'est sûr, ça ne convient pas à tout le monde. Mais par exemple, quelqu'un qui est en fauteuil roulant peut aussi participer à une thérapie par la marche.
Comment ça se déroule?
Ça serait...
Vous poussez, par exemple, le fauteuil roulant? Est-ce que ça serait comme ça?
Ça dépend. Souvent, les personnes qui sont en fauteuil roulant, ils sont autonomes dans leur fauteuil roulant. Alors, soit c'est mécanique ou soit ils le font avec leur propre bras. Mais c'est sûr, c'est pas pour tout le monde. Il y a aussi un aspect de confidentialité. À être dehors, dans un parc.
En public.
Ou en public. Alors, c'est sûr que en marchant dans un parc, par exemple, on marche ensemble dans un parc, il y a des étrangers qui vont nous passer sur un sentier et qui vont entendre un petit bout ici et un petit bout là. Alors, il faut être à l'aise avec ça. Ça se peut qu'on croise un ami, une connaissance en cours de route aussi. Et puis, comment vivre ça aussi?
Ça peut être une distraction,
oui,
c'est sûr.
Oui. Alors ça, on en parle avant la première session. Moi, je trouve que la jeune génération présentement, ils ont moins de gêne par rapport à dire que oui, je suis en thérapie ou je consulte, pendant que les générations peut-être un peu plus âgées, il y avait plus de stigme autour de l'idée de que je consulte en psychothérapie. Alors, beaucoup de gens que je vois, ça les dérange, mais absolument pas qu'on risque de croiser peut-être quelqu'un par hasard ou que quelqu'un d'autre entend quelques bouts ici et là. Et il y a l'aspect du météo. Hein. On est au Québec.
Et oui.
Il y a l'hiver qui est très, très long. Et ce n'est pas tout le monde qui aime faire une bonne marche à moins 25 en mi-janvier. Alors,
on marche plus rapidement.
Oui, oui, c'est ça. Même sous la pluie, j'en ai fait à plusieurs reprises. Et comme j'ai nommé, il y a cette fierté que même quand les choses sont difficiles, on est capable.
Oui, c'est... Ouais. On a survécu.
Oui.
On a cheminé jusqu'au bout, on a réussi.
Exact.
Oui.
Exact.
J'aimerais vous poser quelques questions un peu plus personnelles peut-être, mm-hmm. en sens que qu'est-ce qui vous a attiré vers ce concept?
Je dirais, moi, je suis une marcheuse, une randonneuse, même avant que je suis devenue travailleuse sociale. J'ai beaucoup, beaucoup marché et surtout des longues randonnées aussi. Et sur ces longues randonnées, ça me fait tellement de bien.
Mais oui.
Il y a mon esprit qui est apaisé, peut-être toutes mes anxiétés, toutes mes préoccupations, tout mon stress, ça part et je suis juste sur le sentier et je vis sur le sentier. Et puis ça, c'est vraiment intégral à qui je suis. Et par la suite, je suis devenue travailleuse sociale. J'ai travaillé une quinzaine d'années dans les CIUS, ici à Montréal, en CLSC. Avec toutes les populations et toutes les problématiques imaginables. Et il y a quelques années, je me suis éloignée du pratique première ligne en CLSC. J'avais besoin d'un changement, j'avais besoin de faire d'autres choses. Alors, depuis 4-5 ans, je suis plus toujours dans le milieu de la santé, mais plus en gestion. Et ça me manquait. Ça me manquait l'intervention, ça me manquait...
Le côté humain.
Oui, ce côté... on a le côté humain en gestion aussi, mais ce côté de proximité et de soutien et d'offrir cet espace. Et puis, j'ai exploré dans ma tête comment je pourrais faire. Et très franchement, j'ai dit, oh, si on intègre la marche avec... la pratique thérapeutique et je me trouvais géniale et je dis bah, c'est fantastique, j'ai trouvé la solution. Et puis là, j'ai fait un peu de recherche et j'ai vu, oui. Oh non, en fait, ça existe déjà, ça existe, c'est bien établi depuis des années. Mais moi, c'était vraiment un processus personnel de vouloir me rapprocher encore de l'intervention clinique, mais de le faire autrement, de le faire d'une façon qui touche cet amour que moi j'ai pour la randonnée, la marche dehors. Je sais que ça fait du bien. Tiens, on a toutes les études maintenant qui nous le disent, mais...
Vous le constatez.
Je le constate et on le sait intuitivement que ça nous fait du bien. Même une personne qui sort 10 minutes... marcher jusqu'au coin du rue et revenir, on sait, ça fait du bien. Alors, pour moi, c'est d'intégrer toutes ces choses-là. Et voilà, c'est comme ça que je suis arrivée à offrir la marche thérapeutique.
Mais d'aller prendre une marche avec des amis, ça nous fait du bien aussi. Donc, c'est dans la même mouvance.
Oui.
Oui. Oui. Vous ne regrettez pas votre choix.
Non, pas du tout. Pas du tout.
Vous le faites quoi, une journée ou deux par semaine, c'est ça?
Ben, je travaille 4 jours, alors je l'offre une journée semaine et en quelques soirées aussi. Mm-hmm. Ouais.
C'est une nouvelle thérapie qui fait ses preuves, bien sûr, qui n'est pas tellement répandue encore. Comment voyez-vous l'avenir de cette forme de thérapie?
Moi, je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de potentiel. De plus en plus, les thérapeutes et les psychothérapeutes en parlent. Ils l'intègrent dans leur pratique.
Ah oui, quand même.
Oui, il y a souvent des gens que ça va être pas automatiquement la première chose qu'ils vont offrir, mais ça va faire partie. Et c'est, pour moi, ça va agrandir encore. Je vois, par exemple, à l'heure des travailleurs sociaux, maintenant on offre une formation en écothérapie. Il y a ce désir de se reconnecter avec la nature, de reconnecter avec soi à travers la nature. Alors tout ce qui est écothérapie. Et on voit de plus en plus les études par rapport du mouvement sur la santé mentale et les aspects positifs. Alors, pour moi, ça va que grandir. Ouais.
Est-ce que vous avez des collègues, des connaissances qui la pratiquent aussi?
Dans mes connaissances, c'est plutôt des gens qui l'ont pratiqué pendant le COVID. Alors, le COVID, il y avait toutes les restrictions incroyables. Et puis, les gens qui faisaient la thérapie à cette époque-là, certains l'ont intégré à leur pratique. Ils ont fait, au lieu de virtuel, ils sont allés prendre une marche avec leurs clients.
Et cela a fait beaucoup de bien, beaucoup de personnes.
Oui, ouais, c'est sûr.
Tamara, en terminant, comment s'en prévaloir? Est-ce qu'il y a des façons de communiquer avec des personnes, soit vous ou d'autres, pour justement bénéficier de cette nouvelle thérapie?
Oui, alors tout simplement, on peut regarder sur notre engin de recherche Google ou autre et mettre walk and talk en anglais, thérapie par la marche, marche thérapeutique et tout de suite, on va avoir une liste de personnes qui l'offrent, soit ici à Montréal ou partout au Québec, ça s'offre. C'est petit, il faut chercher, mais les gens qui l'offrent, ils s'annoncent tranquillement et puis on peut les trouver.
Alors, vous êtes optimiste que cela va se répandre?
Ah oui. Et puis, ça fait tellement de bien. Alors, j'invite tout le monde de l'essayer au moins une fois.
Voilà, c'est un bon conseil et une belle façon de terminer notre entretien. Merci beaucoup, Tamara. Ce fut un grand plaisir.
Merci beaucoup, Denis. J'apprécie énormément.
C'est de nouveau l'heure de la chronique « Le corps en marche ». Aujourd'hui, l'ostéopathe et entraîneur postural Michel Cousinat-Baudet aborde une question que plusieurs d'entre nous se posent. Peut-on vraiment perdre du poids en marchant? Alors Michel, qu'en est-il Une bonne approche pour se délester de quelques kilos en trop?
La réponse courte, Denis, c'est oui, mais pas comme on le croit. Certes, la marche peut contribuer à la perte de poids, mais ce n'est pas un outil spectaculaire pour réaliser cet objectif. Son rôle le plus important est ailleurs, dans la régulation du métabolisme. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant.
Tiens, tiens, ce mot métabolisme, encore une fois, vous y faites souvent référence dans votre chronique. Pourriez-vous décrire ce qu'est le métabolisme?
Bien sûr. Imaginez que votre corps est une maison qui consomme de l'énergie 24 heures sur 24. Même quand vous dormez, même quand vous ne bougez pas. Cette énergie, elle sert à faire battre le cœur, respirer, maintenir la température corporelle, faire fonctionner le cerveau. Le métabolisme, c'est l'ensemble des réactions chimiques qui permettent à l'organisme de fonctionner, de vivre. Donc, ça comprend la construction et le stockage des molécules, leur dégradation et la libération d'énergie. Donc, la dépense d'énergie, on peut la diviser en trois grandes catégories. Donc, il y a le métabolisme de base, la thermogenèse alimentaire, je vais tout vous expliquer ça.
Oui, formidable.
Et la dépense liée au mouvement. Donc, la plus grande part de la dépense énergétique, c'est la première, donc ce qu'on appelle le métabolisme de base. C'est l'énergie que le corps dépense pour rester en vie. Donc, sans bouger, sans faire d'exercice, juste exister. Ça va représenter environ 60-70 % de l'énergie que vous brûlez dans une journée.
Si j'ai bien compris, la majorité des calories que l'on brûle ne provient pas de l'activité physique comme telle.
Exactement. Donc, c'est pour ça qu'on a tendance à surestimer l'impact d'une séance d'exercice là, isolée. C'est pas là où on va aller chercher le plus de dépenses énergétiques.
Alors, qu'en est-il de la deuxième catégorie?
Oui. Donc, la deuxième catégorie, c'est la thermogenèse alimentaire. Ça, ce que ça veut dire, finalement, c'est la digestion. Donc, l'énergie nécessaire pour digérer les aliments, transformer les aliments également. Donc, c'est environ 10 % de la dépense énergétique quotidienne.
Donc, on brûle les calories en mangeant?
Oui, mais pas assez pour annuler le dessert, par exemple. En revanche, la marche après un repas améliore la façon dont le corps va gérer le sucre dans le sang. Ça, on va y revenir plus tard. En attendant, là, la troisième catégorie pour la dépense énergétique, c'est en lien avec tout ce qui bouge. Donc là, on inclut l'exercice structuré, comme la marche, le vélo, l'entraînement, et le fameux NEAT.
Le quoi?
Le NEAT, N-E-A-T. Donc, c'est un terme scientifique, c'est un acronyme, là, pour désigner tous les petits mouvements du quotidien. Donc, des mouvements comme se lever d'une chaise, marcher dans la maison, monter l'escalier, jardiner, là, tout, stationner la voiture un peu plus loin pour marcher plus. Des petits mouvements qu'on considère pas comme de l'exercice comme tel, mais qui, une fois cumulés, peuvent faire une grosse différence sur le long terme.
Donc, la marche agit surtout sur cette troisième catégorie.
Oui. Elle agit directement sur la troisième catégorie. Elle fait augmenter le NEAT. Donc, à long terme, ça va modifier la façon dont notre corps gère l'énergie au repos. Donc, ce qu'on parlait tantôt, là, le métabolisme de base, elle a donc un impact indirect sur notre métabolisme de base.
Alors, je me pose la question, comment la marche modifie-t-elle ce terrain métabolique, pour ainsi dire?
En deux mots, l'activité physique, comme la marche, ça a un effet sur les mitochondries, qui sont comme des petites centrales énergétiques là, dans les cellules, la régulation du taux de sucre sanguin, l'inflammation et la masse musculaire.
Alors, pourriez-vous nous décrire en détail chacune de ces catégories?
Bien sûr. Donc, si on commence avec les mitochondries, ça, on n'en parle pas souvent. Donc, dans chacune de nos cellules, il y a des petites centrales énergétiques qu'on appelle mitochondries. Et elles vont transformer les nutriments en énergie utilisable. Donc, quand on marche régulièrement, les mitochondries deviennent plus efficaces et plus nombreuses. Plus elles fonctionnent bien, plus le corps est capable d'utiliser les graisses comme carburant. C'est un effet qui est progressif, invisible, mais fondamental.
Très intéressant. Alors, ensuite, on parle de régulation du sucre sanguin.
Oui, on a déjà fait une chronique là-dessus.
Oui.
Donc, la marche, surtout après un repas, va aider à mieux gérer le taux de sucre dans le sang. Donc, imaginez qu'à chaque fois que vous mangez, surtout des glucides, votre taux de sucre dans le sang augmente. Ça, c'est normal.
Mm-hmm.
Donc, si le taux de sucre augmente trop souvent, le corps doit produire beaucoup plus d'insuline pour faire redescendre le taux de sucre sanguin. L'insuline, c'est l'hormone qui permet au sucre d'entrer dans les cellules. Mais c'est aussi l'hormone de stockage. Donc, trop de pics de sucre, trop d'insuline, plus de stockage, prise de poids. Et à long terme, on peut même développer une résistance à l'insuline qui peut éventuellement mener au diabète. Et c'est là que la marche devient intéressante. Comme je l'ai dit plus tôt, une petite marche, 10-15 minutes après un repas, ça va aider les muscles à utiliser le sucre immédiatement. Et le résultat, c'est que le pic de taux de sucre dans le sang va être moins élevé. C'est comme si la marche agissait comme un petit tampon ou un amortisseur. Moins de pics répétés, moins de stimulation excessive du stockage. Sur des années, là, ça peut influencer la composition corporelle et le poids. Pas spectaculaire en une semaine, mais puissant à long terme.
Mais sur la balance, là, ça paraît pas toujours.
Non, effectivement. Mais il faut comprendre que, tu sais, toutes les graisses ne sont pas équivalentes. Donc, on a la graisse qui est sous la peau, qu'on peut pincer. Et il y a la graisse viscérale. Ça, c'est celle qui est plus profonde autour des organes. Et la graisse viscérale, elle est métaboliquement active.
Ça veut dire quoi, métaboliquement active?
Ça veut dire qu'elle n'est pas juste là.
Ah.
Elle va produire des substances inflammatoires. Elle perturbe les hormones, augmente le risque de diabète et de maladies cardiaques. Plus on en a, plus le métabolisme est perturbé. La bonne nouvelle? L'activité modérée, comme la marche régulière, aide à réduire cette graisse profonde, même si sur la balance, ça ne change pas énormément.
Donc, on peut améliorer sa santé métabolique sans que ça paraisse sur la balance ou dans le miroir.
Exactement. Perdre 2 kg sur la balance, ce n'est pas toujours significatif. Mais réduire la graisse viscérale, oui.
Alors, on en vient à la quatrième catégorie, la masse musculaire.
Donc, avec l'âge, malheureusement, on a tendance à perdre un peu de cette masse musculaire. Moins de muscles égale moins de dépenses énergétiques au repos. Donc, la marche ne construit pas énormément la musculature, mais elle va aider à préserver la masse musculaire existante, surtout si la marche est soutenue et régulière. Et si on associe cela à un peu de renforcement musculaire, c'est encore mieux.
Alors, si je comprends bien, la marche ne transforme pas le métabolisme du jour au lendemain, mais à long terme.
Exact.
Bon.
Elle va améliorer l'efficacité cellulaire, stabiliser la glycémie, réduire l'inflammation et soutenir la masse musculaire. Bref, elle modifie le terrain métabolique, comme vous disiez. Et un terrain métabolique plus stable, ça rend la gestion du poids plus réaliste. Donc, si je résume, la marche n'est pas un brûleur de calories spectaculaire, c'est un régulateur biologique. Elle rend le corps plus intelligent dans sa gestion de l'énergie. Et ça, c'est beaucoup plus durable.
Et j'imagine que c'est encore plus important en vieillissant.
Oui, après 40 ans, il y a plusieurs choses qui vont changer naturellement. Comme on le disait plus tôt, là, il y a une perte de masse musculaire à chaque année. Le métabolisme ralentit, les cellules sont moins efficaces pour produire de l'énergie. Donc, le muscle, c'est un grand consommateur d'énergie, même au repos. Plus on a de muscles, plus on brûle de calories, moins on en a, moins on en brûle. La marche ne construit pas énormément de muscles, mais elle aide à ralentir sa perte. Et surtout, elle garde les cellules actives. Donc, c'est comme entretenir le moteur au lieu de le laisser rouiller. Après 40 ans, marcher régulièrement est encore plus important chez les femmes. Donc, à la périménopause et à la ménopause, il y a une chute au niveau des estrogènes. Et ça va changer la façon dont le corps stocke les graisses. Donc, en plus d'une longue liste de symptômes incommodants, ces femmes observent souvent plus de stockage abdominal, donc cette mauvaise graisse autour des organes, une résistance à l'insuline, donc avoir tendance à avoir plus de pics de sucre dans le sang. Il va y avoir plus d'inflammation et un certain stress hormonal. Et la marche aide à contrebalancer ces mécanismes. Elle va améliorer la digestion du sucre, réduire le stress psychologique et diminuer l'inflammation. Elle ne va pas faire fondre le ventre par magie, mais elle agit sur les causes biologiques qui favorisent son apparition.
Donc, Michel, marcher ne fait pas nécessairement fondre 5 ou 10 kilos en 3 mois, là.
Non. Mais ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que la marche ne force pas le corps à perdre du poids. Elle le rend plus stable. Elle améliore la gestion du sucre dans le sang. Elle diminue la graisse la plus dangereuse, celle autour des organes. Elle protège contre le ralentissement naturel du métabolisme avec l'âge et soutient l'équilibre hormonal. C'est peut-être pas spectaculaire, mais biologiquement, c'est extrêmement intelligent. Et il y a un point très important qu'on oublie souvent. La marche est particulièrement efficace pour prévenir la reprise du poids.
Mmh.
Donc, les chercheurs du National Weight Control Registry montrent que les personnes qui réussissent à maintenir une perte de poids sur plusieurs années font en moyenne une heure d'activité modérée par jour. Et l'activité la plus fréquemment rapportée? La marche. Donc, la marche, ce n'est peut-être pas un accélérateur rapide de perte de poids, mais c'est un stabilisateur à long terme. Et en santé métabolique, la stabilité, ça vaut de l'or.
Excellente remarque, Michel. Alors, combien de temps faut-il marcher?
Les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé parlent de 150 à 300 minutes d'activité modérée par semaine. Donc ça, c'est environ 30-45 minutes par jour. Et les grandes études là, sur les pas quotidiens montrent que les bénéfices commencent autour de 6 000-8 000 pas par jour.
Mmh.
Puis après ça, il y a des bénéfices qui continuent d'augmenter, mais c'est plus graduel.
Donc, marcher pour maigrir, oui ou non?
Oui, comme partie d'une stratégie globale, mais non comme solution miracle isolée. Donc, si vous voulez perdre du poids sur la balance, vous devez modifier votre alimentation, augmenter votre dépense énergétique globale avec, par exemple, un programme d'entraînement adapté à votre condition et à vos objectifs. Cela dit, la marche, c'est un bon début. Elle stabilise le métabolisme, augmente la gestion du sucre, soutient l'équilibre hormonal, réduit la graisse viscérale, aide à maintenir le poids perdu, protège contre le ralentissement lié à l'âge, mais elle ne provoque pas la transformation rapide, remplace pas une alimentation cohérente, ne contourne pas la biologie humaine. La marche travaille avec le corps, pas contre lui.
Alors, comme toujours, Michel, vous nous résumez tout ça en quelques mots, là.
Bien sûr. La marche n'est pas une stratégie de transformation rapide, c'est une stratégie de régulation durable. C'est un investissement quotidien, discret, presque banal, mais qui, accumulé sur des mois, des années, change profondément la trajectoire métabolique. Si vous marchez chaque jour, vous n'êtes peut-être pas en train de maigrir vite, mais vous êtes en train de rendre votre corps plus stable, plus résilient, plus intelligent dans sa gestion de l'énergie. Et ça, c'est un immense cadeau à long terme. Alors, marchez. Pas pour brûler un repas, pas pour votre chiffre sur la balance. Marchez pour entretenir votre corps à mieux fonctionner. Et votre corps vous en remerciera.
Et merci à vous, Michel, d'avoir expliqué si clairement le rôle de la marche dans la gestion du poids. Et au plaisir de vous revoir bientôt pour une autre chronique, Le corps en marche.
Au plaisir, Denis.
Chers amis, c'est ainsi que se termine cet épisode de Marcher vers le bien-être. Nous espérons qu'il vous a plu. Je tiens à remercier de leur participation Tamara Ackman et notre chroniqueuse Michel Cousina-Baudet. Merci également à Lisandre Duplé et Jérôme Costigan à la technique. Et merci à vous toutes et tous d'avoir été des nôtres pour Marcher vers le bien-être. Je vous rappelle que Marcher vers le bien-être est diffusé les mardis à 22h et rediffusé les mercredis à 11h, les vendredis à minuit et les samedis à 10h. Vous pouvez aussi l'écouter en direct sur le site de Radio VM ou en différé sur le site jemarchepartout.com où vous trouverez descriptifs et références pour tous les épisodes. Un moteur de recherche vous permet d'ailleurs de trouver rapidement les sujets qui vous intéressent et de télécharger les épisodes choisis. Je vous laisse cette semaine avec une pensée de Joseph Templier. Accompagner quelqu'un, c'est se placer ni devant, ni derrière, ni à la place. C'est être à côté. Sur ce, je vous souhaite bonne route et à la prochaine.